Je suis Christian Lacombe et dans un brin d'histoire, j'aborde la richesse de notre patrimoine régional. Bonjour à tous. À ce mois-ci, pour notre 62e émission, je vais vous parler de l'épopée du prince noir sur nos terres. De octobre à décembre 1355. Bien sûr, nous sommes durant la guerre de Cent Ans, qui a débuté en 1337. Et nous sommes dans l'ancien comté de Toulouse, devenu possession du roi de France depuis plus d'un siècle, 1229. Alors, il est important de préciser avant tout les origines de cette discorde ancestrale. Je dis ancestrale, parce que les Anglais, cent ans plus tôt, possédaient pratiquement les deux tiers de notre pays, qui comprenait alors uniquement l'île de France. La parenté des deux familles, issues d'Aliénor d'Aquitaine, reine de France, par un premier mariage, puis épousant ensuite un Plantagenet, devenu roi d'Angleterre, tout cela suscitait déjà des relations conflictuelles vis-à-vis du trône de France. Durant le XIIIe siècle, les rois de France, Philippe Auguste, Louis IX ou Saint-Louis, et Philippe le Bel ont agrandi leur territoire. Le dernier fils de Philippe le Bel disparaissant, c'est un Valois qui devient roi de France. La fille de Philippe le Bel étant mariée avec le roi d'Angleterre, Édouard II, c'est donc le petit-fils de Philippe le Bel qui revendique la couronne de France et refuse l'hommage et allégeance au nouveau roi de France, Philippe VI. Le duché d'Aquitaine reste toujours anglais. La première défaite des Français fut une déroute à Crécy, le 26 août 1346. Édouard III débarqua en Normandie et défit complètement l'armée française et prit Calais, le but initial étant de prendre Paris. Le prince noir était à ses côtés et commandait un corps de troupes. Il n'avait que 15 ans et, 10 ans plus tard, le conflit repart. Dans notre territoire, en janvier 1355, le comte d'Armagnac soutient le nouveau roi de France, Jean II, le Bon. Il s'opposait ainsi aux seigneurs d'Aquitaine et aux Gascons, qui sont du côté de l'Angleterre et du prince noir. Il faut se rappeler que Bordeaux est anglaise. Le prince noir, Édouard de Vousdouk, est le fils aîné d'Édouard III. Il est prince de Galles. Il s'est distingué à Crécy, donc à côté de son père, 10 ans plus tôt, et il est remarqué pour son armure noire. Il désire poursuivre la guerre et montrer son efficacité. Lorsqu'il vivait en Aquitaine, terre anglaise, sa réputation était mauvaise. Dépensier, traité de brigand par certains, mais c'est un guerrier redouté et qui veut effrayer. Son but, du prince noir, est de pratiquer une guerre éclair. Après 10 jours de mer, l'armée arrive au port de Bordeaux. Pour les besoins personnels du prince, il fallait acheter viande, poisson, sel, bois, habillement. On fit frapper monnaie en pièces d'or et argent, marquées au léopard. C'est l'insigne du prince noir. Alors piller, affaiblir, apeurer les populations, terrasser pour impressionner, obtenir des rançons, agir par des incursions éclairs, voilà son but. Selon les chroniqueurs de l'époque, le prince possédait une armure noire et son homme était surmonté d'un léopard, sa bannière étant noire. Les chevauchés des Anglais avaient donc pour but de protéger leur Guyenne contre le roi de France, mais de ne pas chercher l'affrontement direct avec l'armée française. Au XIVe siècle, Bordeaux était une ville importante et active, de 30 000 habitants. Londres était une sorte de dépendance de Bordeaux. Ceci peut nous surprendre. La partie intramuros de Bordeaux couvrait 170 hectares clos par des remparts. C'est une ville riche grâce au commerce du vin et un port très important. Les Anglais possédaient une équipe de chefs très expérimentés. La suite du prince comportait 430 hommes d'armes, 700 archers, 400 montés et 300 à pied. Et de nombreux hommes d'armes. Il y avait aussi une équipe de conseillers, tous anciens ayant combattu à Crécy avec Édouard III. L'armée leva le camp de Bordeaux le 5 octobre 1355. Il y avait 2600 hommes anglais et gallois, s'ajoutaient les Gascons et une poignée d'hommes allemands, espagnols, selon l'historien du prince, une armée de 60 000 hommes, ce qui semble exagéré. En réalité, 8 à 10 000 hommes semble plus probable. Le gros de la troupe de l'armée était composé de Gascons. Les combattants étaient assistés de nombreux non-combattants. Les nobles avaient à leur service des domestiques et des clercs. Tous les hommes d'armes avaient des domestiques. Il y avait aussi des chroniqueurs, le tailleur du prince, des administrateurs, des charpentiers, des maréchaux ferrants, des pontonniers, des forgerons, des fabricants d'arcs et flèches, cuisiniers, selliers, armuriers, charretiers, etc. Le nombre de chevaux est impressionnant. Pour 10 000 hommes, nous arrivons à une centaine de véhicules tirés par 900 chevaux de bât et 520 bœufs, afin de transporter la nourriture pour les hommes et les animaux. Certains seigneurs peuvent amener plusieurs chevaux. À Crécy, par exemple, il y avait 40 charpentiers amenant des ponts portables. Ainsi, nous arrivons au total pour l'armée à 14 000 chevaux. John Unterschwartz, intendant de la maison du prince, donne l'idée de l'ampleur des tâches de préparation. Mettre les comptes en ordre en réglant les provisions, en réglant les archers, les achats de médicaments. Présence aussi du tailleur du prince William Stratton et on contracta aussi deux emprunts de quelques 1000 livres à rembourser au retour. On assurait aussi le paiement des jongleurs, des musiciens qui suivaient le prince. L'armée se livrait à des pillages. Il fallait prévoir aussi de se nourrir sur le terrain par des prises. Mais il fallait transporter le butin impressionnant et le ramener ensuite en Guyenne. Le foin et l'avoine furent achetés à Castet en Dorthe. Le vin avait été déjà distribué et on acheta 1000 gallons de vin. C'est l'équivalent de 10 000 litres de vin. 670 gallons réservés aux Gallois. Il faut savoir que l'eau, à ce moment-là, était imbuvable. Seul le vin et la bière étaient distribués. Dès ce premier jour de campagne, de nombreux chevaux vont périr. Étape trop longue, choisie de 40 km, mais ces chevaux ont mal supporté la traversée en bateau. Le prince commanda rapidement le mouvement vers Bazas. Il y acheta du vin aussi et du blé. Et il ordonna dès lors aux soldats de porter la croix de Saint-Georges sur la poitrine. En quittant Bazas vers le sud, l'armée entra dans les Landes, paysage désolant de sable à l'époque. Cela prit 3 jours sans voir âme qui vive. À Arouille, l'armée entre en territoire ennemi, se partage en 3 groupes. Le pillage et le vol commencent. Le prince a maintenant couvert 130 km en 7 jours. Le comte de Warwick commande l'avant-garde. Sir Reginald Coban, nommé maréchal, et Thomas Hampton est nommé porte-étendard. On rentre ensuite dans le Gers actuel. On prend les villes et châteaux, on brûle Montclar, Estang, Panjas, Nogaro, Termes, Plaisance, Bassouès. À Bassouès, l'abbaye des Prémontrés fut pillée et brûlée. Mirande fut épargné par son appartenance au comte du Comminges, qui n'était pas dans le conflit. Mais aussi, elle était très bien protégée, de même que l'abbaye de Berdouès, qui restera intacte. Continuant, l'armée détruisit 6 morts, Lombès, Saint-Matin, et arrivait aux portes de Toulouse. Le but du prince était d'éviter Toulouse, de le contourner et de ne pas se stopper sur un siège, une confrontation trop longue et coûteuse en pertes. L'armée traversait la Garonne et l'Ariège à Pinsaguel et la Croix-Falgarde, le 28 octobre. Alors à Pinsaguel, il y avait un guet, d'où le nom d'origine de Pinsaguel, Pinsaguet. Protégé dès la traversée, l'armée, ainsi, se reposa un jour. En automne, les vivres étaient relativement abondantes. L'armée se nourrissait sur le terrain, dans les villages traversés. Certaines populations ont fui, emportant leurs réserves et les brûlant. Parfois, comme à Montgiscard, un village de 200 personnes avec 100 jours de réserve pouvait satisfaire les besoins de 15 000 hommes pendant un jour. L'armée ne devait pas s'arrêter plus de 2 à 3 jours. Cela entraînait de grandes difficultés. Pour les chevaux, il fallait 150 mètres carrés de pâturage par jour par cheval. Les 14 000 chevaux nécessitaient 210 hectares de pâturage par jour, chaque cheval demandant 20 litres d'eau par jour. Le partage de l'armée en 3 divisions facilitait ainsi l'étalement pour les pâtures. Ainsi, la route était ouverte vers Narbonne. Les villages traversés étaient peu défendus. Et la région la plus productrice de France en céréales, élevage, bovin et ovin, qu'on appelle le pays de Cocagne. 12 moulins à vent furent brûlés. Hommes et femmes, enfants furent massacrés sans distinction à Castelnaudary. Puis on arriva à Carcassonne, où le bourg fut mis à feu et à sang. On ne fit pas le siège de la cité. À Narbonne, la population se réfugia dans l'enceinte. Il y eut une défense héroïque avec 500 hommes d'armes dans la ville. L'armée n'insista pas, se retira en mettant le feu au bourg environnant. Pour le retour, les Français étant tout proches, on suivit la vallée de l'Aude vers l'ouest, ce qui semblait souhaitable. Au retour de l'armée vers les plaines de la Garonne, le prince noir traversa le territoire du comté de Foix de Gaston Phébus. Sa neutralité lui évitait des destructions. Phébus et le prince noir chevauchèrent ensemble jusqu'à Sainte-Gabelle. Puis, les destructions reprirent. À Haute-Rive, l'armée traversa l'Ariège à Calmont. Nous sommes le mercredi 18 novembre. On brûle le château de Miremont. Dans le village, la découverte récente de silos montre que la perte en grains pour la population dut être une très douloureuse épreuve. Nous sommes à 26 km de Toulouse, qui se protège. L'armée des Français attend l'affrontement. Mais les Anglais refusent le combat. Ils traversent la Garonne plus au sud. Ils épargnent le château et le village de Montaut, qui est propriété de Gaston Phébus. Par contre, on brûle Noé. La troupe passe la Garonne, les cavaliers étant en une seule file. Les eaux étant au plus bas de l'étiage, mais on brûle Marquefave et on se dirige vers Carbonne, ville riche, pour ses foires et marchés. Ici, nous sommes particulièrement concernés et plusieurs versions divergent. D'abord, la traversée du convoi de chariots qui atteint un nombre très important. On parle de 1000 chariots chargés de butin. Comment passer la Garonne? Alors, l'hypothèse de l'historien spécialiste du prince noir, Peter Austin, fait traverser les chariots par le pont de Carbonne et pour y arriver, en longeant la Garonne rive droite par les coteaux de Marquefave, passant par le bas de Rieu et entrer dans Carbonne par le sud, aujourd'hui le Pilat, qui reste le vestige de ce pont. Le corps d'armée du prince noir reste, lui, dans la plaine de Longage, Noé Carbonne, craignant les assauts venus de Toulouse, des troupes du roi de France, alliées au comte d'Armagnac. Dans les récits, le chroniqueur De Backer, il indique que les Carbonnais ont vaillamment combattu. Ceci nous semble peu probable de la part d'une population de 800 habitants à l'époque. Le chroniqueur veut sans doute héroïser les attaquants et leurs victimes. La ville fut pillée et brûlée. Nous sommes le jeudi 19 novembre. Le prince autorisa un jour de repos. Le vendredi 20 novembre, l'armée du prince leva le camp, se préparant pour affronter le roi de France. Les deux armées furent en vis-à-vis. Bien que les armées françaises soient à une dizaine de kilomètres, il n'y eut pas de combat. Seulement quelques escarmouches, peut-être à Bérat. 35 prisonniers sont mentionnés. Carbonne, ville royale, en pareage avec l'abbaye de Bonnefonds, perdra toutes ses archives dans l'incendie. Elle sera reconstruite dès l'année suivante à la requête du comte d'Armagnac, des abbés de Bonnefonds et du roi de France. L'armée du prince rejoignit Mauvezin, Oradée, Orimont. On traversa la Save, l'Osse, la Gimone, près d'Orimont. l'armée se mit en position de bataille, car les Français étant tout proches, mais ceux-ci se retirèrent. Le prince, le 29 novembre, mit ses comptes à jour, passa des écritures, paya les guides, paya deux aubers, paiement aussi de pâture, foin, pain, avoine, blé, bois de chauffage, et avance sur gage aux charpentiers et fabricants de sa tente. Compensation aussi pour avoir incendié par erreur la maison d'un notable de Mézin, allié des Anglais. Les réserves d'eau étaient un problème. On donna aux chevaux à boire du vin, ce qui entraîna des chutes, car la traversée de la rivière du Gers était encore loin. La traversée du Gers par l'armée anglo-gasconne permit d'atteindre Régemont, Lagardère, Mézin, Casteljaloux, Meillan fut reprise. Il y eut moins d'exactions commises dans les dernières chevauchées. L'hiver arrivait, les jours diminuant, on avait hâte d'arriver. Le 2 décembre, après son arrivée à la Réole, le prince tint conseil. La chevauchée avait désolé les terres du roi de France, la perte en recettes fiscales étant énorme. Le bénéfice étant immédiat, outre les rançons payées, le butin avait ramené 1000 chariots chargés de richesses. Les emprunts du prince furent immédiatement remboursés. Le prince avait ainsi conduit son armée profondément dans le territoire français, par une marche de 1000 kilomètres. Il atteint ainsi Bordeaux le 5 décembre et y resta pour les fêtes de Noël, avec ses conseillers. Il pouvait considérer que le bilan des 2 mois était plutôt satisfaisant, le manque de résultats en termes de victoire par affrontement direct étant bien sûr un échec. La chevauchée était un instrument de guerre économique. Une tornade dévastatrice s'étant abattue, plongeant les populations dans le malheur. Elle prépare la grande aventure vers Paris et la bataille de Poitiers de l'année suivante, où le roi Jean II de Bon sera fait prisonnier à Maupertuis. Alors pour écrire cette émission, je me suis appuyé sur le livre d'un auteur britannique, Peter Hoskins, que nous avons rencontré à Carbone lors de sa recherche d'archives. Peter a refait exactement le parcours du prince noir à pied. Son livre tient compte d'une bibliographie très documentée, à la fois du côté français avec les chroniqueurs tels que Froissart, mais aussi du côté anglais avec Baker, chroniqueur du prince. Toutes les archives des villes traversées, ainsi que des plus précis ouvrages écrits sur cette épopée, ont été consultés. Nous ne saurons jamais combien de victimes aura fait le prince noir, sans doute plusieurs milliers. Pourtant, aujourd'hui, une grande amitié nous lie aux Gallois, car notre ville de Carbone est jumelée avec la ville de Monmouth au pays de Galles, ville de naissance d'Henri V, vainqueur à Azincourt, quelques années plus tard, 1415. Alors ce jumelage, ancien de 40 ans, est une autre histoire. Il a établi des liens festifs entre nos deux communautés. Mais nous évitons toujours de parler de la visite du prince noir à Carbone, le 18 novembre 1355. Alors, vous pouvez vous procurer cet ouvrage à la collection L'Armatan, Paris. C'est intitulé « Dans les pas du prince noir, le chemin vers Poitiers » de Peter Hoskins. Et vous pouvez écouter ou réécouter l'émission en podcast sur radiogalaxie31.com, un brin d'histoire. Christian Lacombe, histoire et tradition carbonaise. Merci de votre écoute. retrouvons-nous pour un autre brin d'histoire sur Radio Galaxie 98.5 FM.